Le sommet du pompon, c'est évidemment samedi et dimanche. Hein. C'est là où on prépare le terrain. Hein. La bombe, c'est pour le sabbat, c'est normal. Mais là, pour l'instant, on ne fait que dire des lieux communs. Hein. Mais les lieux communs, c'est pas mauvais. Ça nous remet dans la bonne direction. Et une fois qu'on est dans la bonne direction, on prend le télescope. C'est ça. Alors, je dis, c'est une tradition, il faut s'arrêter. L'Eucharistie, les sacrements. Comment vivrons-nous des sacrements dans l'Église des derniers temps, dans le sixième jour de l'Apocalypse, dans la sixième trompette, dans le sixième sceau, dans la sixième Église, dans la sixième destruction du mal, dans la sixième victoire de l'agneau de Dieu sur tous les temps, tous les lieux. Comment est-ce qu'on vit l'Eucharistie? Comment est-ce qu'on vit des sacrements? Alors ici, petit catéchisme sur les sacrements. Et il y a sept sacrements. Le baptême, la confirmation, le sacrement du sacerdoce, du prêtre, de l'ordre, le sacrement de pénitence, du pardon, le sacrement de l'Eucharistie, sanctissime sacrement, le sacrement du mariage et le sacrement extrême. Sacrement extrême. Tous les sacrements sont des onctions. Et il y a l'onction extrême. Chacun de ces sept sacrements est traditionnellement appelé par l'Église de sept noms différents. Ça fait 49 noms. Vous saviez ça? Par exemple, pour le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie est appelé messe. Sacrifice. Saint sacrifice. Eucharistie. Communion. Je vais lire le sacrement, je vais communier, ou bien je vais à la messe, ou je vais participer au Saint-Sacrifice, ou bien, c'est un synaxe. Dans les premiers temps de l'Église, on l'appelait synaxe, c'est-à-dire l'axe du rassemblement substantiel de tout. Synaxis. La synaxe. La messe. Les sept, vous avez la synaxe, le mysterium fidei, le mystère de la foi. Deuxièmement, troisièmement, la messe. Quatrièmement, le viatique. Ah, c'est ça que j'avais pas dit. Le viatique, le mémorial. Viatique, mémorial, c'est la même chose. Le tikaron, le mémorial, le viatique. Le saint sacrifice. Quand on parle du Saint-Sacrifice, c'est hostie. C'est l'hostie. Saint-Sacrifice. La communion, c'est un repas. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce suprême. La synaxe, parce que c'est le sacrement du rassemblement. Le mysterium fidei, parce que c'est le sacrement sanctissime. Sacrement des sacrements. La mère, parce que c'est l'envoi du Christ dans notre cœur, et à partir de nous-mêmes, le Christ qui continue sa mission à travers nous dans le monde, c'est la mission et c'est l'envoi. La messe, c'est l'envoi. C'est un viatique, parce que dans le viatique, on fait mémoire de Dieu, et Dieu est présent. C'est l'hostie, parce que c'est le sacrement du Saint-Sacrifice. C'est la communion, parce que c'est le sacrement du repas, des noces, de l'agneau. Et enfin, c'est une eucharistie, parce que c'est le sacrement de l'action de grâce substantielle. Alors, pour les sacrements, c'est comme ça. Il y a sept noms. Alors, je peux m'amuser à vous dire les sept noms du sacrement de confession, par exemple. Ça, c'est beau aussi. Hein? C'est le sacrement de réconciliation. C'est le sacrement du pardon. C'est le sacrement de pénitence. C'est le sacrement du salut. C'est le sacrement de la joie, c'est le sacrement de la lumière, c'est le sacrement de l'absolution. C'est vrai? Il y en a certains qui disent, bon voilà, je vais recevoir le sacrement de réconciliation. Je vais recevoir ça, ben non, moi pas du tout, je ne recevrai pas du tout, moi c'est le sacrement de confession. Le sacrement de pénitence que je reçois. Oh non, ça va pas, ça va pas. Moi je reçois le sacrement. Les sept sont vrais. Les sept sont vrais. On reçoit les sept, vous voyez. En un. Et si je privilégie un plutôt que l'autre, c'est que j'ai pas compris grand chose. Vous voyez. Et c'est une tradition qu'il y a différents noms à tous ces sacrements. C'est normal parce que sacrement, chaque sacrement vient libérer, sanctifier, diviniser et glorifier les sept dimensions de notre humanité blessée. Alors, c'est pour ça qu'il a sept jaillissements et à chaque fois sept noms. N'est-ce pas ? C'est à cause de ça. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que il y a effectivement quelque chose qui prend tout. Les sacrements prennent en nous tout. À chaque fois, sous un rapport différent, chaque sacrement a sa manière de nous reprendre, nous, tout entier, quoi. C'est sûr. Dans le baptême aussi, il n'y a pas qu'une seule chose. Dans le baptême, vous êtes lavé du péché originel, hein, vous recevez la grâce sanctifiante, vous rentrez dans le corps mystique de l'Église, votre corps est englouti, incorporé corporellement dans le corps mort et ressuscité du Christ. Vous êtes pardonné de tous vos péchés personnels et de toutes les peines du péché, de toutes les influences du péché antérieur. J'en oublie évidemment. Vous recevez le caractère et la puissance des actes de vie surnaturels, de foi, d'espérance et de charité. Quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême ne peut pas faire réaliser. Voilà. Et vous avez la présence de la très sainte Trinité dans votre âme. C'est les sept effets du sacrement de baptême que seul le sacrement de baptême donne. Et à chaque fois, c'est sept, vous savez. Il faut s'habituer à ça. Donc, pour les sept sacrements, il faut arriver à repérer ça. Les sept effets de chacun des sacrements. Ça fait 49 en tout, c'est joli ça. 47 plus 2. Alors, c'est bien. Donc ça arrive. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous embêter, c'est parce que il y a une progression aussi. Le sacrement, il nous fait. Il nous donne quelque chose d'extraordinaire. Et puis, quelque chose la fois suivante ou d'encore plus extraordinaire, et dans l'Église, c'est pareil, le sacrement s'approfondit, s'intensifie, se déploie, s'épanouit. dans sa fécondité immense, suprême, surnaturelle, et incarnée, et universelle, et catholique. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le sacrement opère sa transformation de débordement en débordement. Eh bien, il y a les sept débordements de chaque sacrement dans notre âme. Chaque sacrement va déborder de sept manières, quoi, progressivement. Et le sixième débordement caractérise ce qui doit être le centre de gravité de la sixième Église. Donc il faut repérer, si vous voulez, le sixième aspect du sacrement dans tous les sacrements. Hein, c'est une petite clé. Là, je vous donne une clé. C'est une clé que je vous donne. Alors, si vous me dites, mais moi, je ne savais même pas qu'il y avait sept débordements dans chaque sacrement. Oh, bah là, écoutez, on peut vous acheter une Bible si vous voulez, on se cotisera. Sinon, il y a des cassettes. Bon, c'est. Par exemple, Brigitte, elle a les cassettes sur la confession. C'est tout ça par cœur. Et on espère qu'on peut le mettre par écrit un jour, je sais pas, mais ça dépend de beaucoup de gens. Ça. Le démon ne le veut pas. Hein. Ça, c'est évident. Le démon ne le veut pas. Mais le bon Dieu, je sais pas, je crois qu'il préfère. Moi je crois. Et lorsque que je vous dis simplement ce que dit saint Thomas d'Aquin sur les sacrements, c'est quoi ces sept débordements successifs? Dans un sacrement, dans tous les sacrements, il y a quelque chose qui manifeste les fécondités du Christ dans l'incarnation. Quand Christ est incarné, qu'il est né à Noël. Par exemple, dans l'Eucharistie, il y a les mêmes grâces que Jésus a données en naissant à Marie et à Joseph, qui nous sont données à nous aussi. Deuxièmement, les grâces qui ont été données par le Christ dans sa vie publique quand il a été tenté par le diable. Troisièmement, il y a les grâces que le Christ a données au moment de la dernière semaine, à partir du dimanche du rameau. Quatrièmement, il y a les grâces que Marie a reçues, et puis ceux qui avaient la foi, au moment de Gethsémani, donc le dernier jour, le jour de la croix, où il était crucifié. Cinquièmement, il y a les grâces qui sont données par Jésus quand il est mort, et que le cœur a été blessé, et qu'il est descendu aux enfers. Sixièmement, il y a les grâces que Jésus a données à Marie quand il est ressuscité. Septièmement, il y a les grâces que Jésus a données à Marie et à l'Église, et aux croyants, lorsqu'il est avec son corps, son âme, qu'il m'a monté à la droite du Père et qui a donné l'Esprit Saint. Et dans tous les sacrements, il y a ces sept. Alors, vous allez me dire, bon d'accord, c'est évident. J'y avais pas pensé, mais maintenant que vous le dites, c'est évident. Vous allez me dire, mais où est-ce que je repère ça et comment est-ce que je capte? Ah, c'est différent, hein? Comment est-ce que je le capte? Alors ça, bon, faudrait faire toute une retraite sur l'Eucharistie, par exemple. Elle existe, d'ailleurs, la dite retraite. Hein? C'est sûr. Alors, quelles sont ces étapes? D'ailleurs, vous voyez bien, dans l'Eucharistie, il y a cette étape. La convocation, tout le monde se rassemble. La liturgie de la parole de Dieu qui correspond à la vie publique. L'offertoire qui correspond à la dernière semaine et au dimanche des rameaux. Le canon qui correspond à la croix. La consécration qui correspond à la blessure du cœur. La communion qui correspond à Pâques. Et l'action de grâce qui correspond à la Pentecôte. Dans la confession, c'est pareil. Il y a les sept étapes. Il faut respecter les sept étapes de la confession. Alors vous allez me dire, bon, mais qu'est-ce qui est commun à tous les sept sacrements ? Ben, ce qui est commun à tous les sept sacrements, c'est que lorsqu'il commence, le Christ est présent comme source. Saint Thomas d'Aquin appelle ça la res tantum. Il n'y a que la présence de Jésus seulement. Tantum, ça veut dire seulement. C'est-à-dire, il n'y a pas encore le sacrement, quoi. Mais il y a quand même Jésus comme source de sacrement qui est là parce qu'on y vient. Et donc Jésus, sacrement, est déjà là. Il y a le signum, il y a le signe. Tous les sacrements sont des signes sensibles et efficaces. Alors c'est pour ça que ça commence par le signe de la croix, ordinairement. Tous les sacrements. Et on rentre dans le signe de la croix d'une manière différente à chaque fois. Puis, dans tous les sacrements, il y a l'association du signe visible et de la présence du Christ. Par exemple, dans l'Eucharistie, c'est à l'offertoire. Saint Thomas d'Aquin appelle ça le res et signum. Res, ça veut dire la présence du Christ, et le signum est le signe sensible. C'est quoi la res et signum de l'Eucharistie? C'est le pain et le vin. C'est du pain et du vin. Qu'est-ce que c'est que la matière, j'en appelle ça la matière du sacrement? Dans la confession, par exemple, la matière du sacrement, c'est l'expression sensible de la contrition devant le prêtre. C'est l'expression sensible de la contrition devant le prêtre qui est la matière du sacrement de pénitence. S'il n'y a pas une contrition sensible, eh bien, il n'y a pas d'absolution. S'il n'y a pas de pain et de vin à la messe, il n'y a pas de consécration. Ensuite, il y a le sacramentum tantum, le sacrement seulement. Tantum, ça veut dire seulement en latin. Dans tous les sacrements, c'est ça. Hein. Donc, vous voyez, on avance comme ça. C'est-à-dire, il va y avoir, ça y est, on appelle ça l'épiclète dans l'Eucharistie. Ça y est, sacrement, fait que c'est dans le canon. Et quand le sacrement, ça y est, on y est, on est déjà à genoux, c'est la présence réelle, mais elle n'a pas opéré son explosion, la bombe est là, tout y est, ils sont tous rassemblés, quoi, mais ouf. Et on arrive à la sacramentum et res, qui est le 1, 2, 3, 4, 5e aspect. Et qui établit la présence réelle et véritable. Dans l'Eucharistie, vous voyez bien que dans le canon, bah, voilà, ça y est, Jésus est en train de. Le prêtre est tout entier avec Jésus. Le pain et le vin dans les mains. Ça y est, il est livré. Le Christ est livré dans l'hostie, mais il n'y a pas eu transsubstantiation. Vous voyez, les protestants s'arrêtent là. Ils vont jusque-là, les protestants, quand même, mais ils s'arrêtent là. Et avec la transsubstantiation, il y a le sacramentum et res. Il y a la transsubstantiation et la présence réelle, véritable du corps du Christ. Ça correspond à l'absolution dans la confession, présence réelle et véritable de tout le sang du Christ, pas une seule goutte ne manquant, qui jaillit du fond de l'âme du pécheur pour le laver totalement de toute faute. Puis, il y a là res et sacramentum, vous voyez. Sixième, c'est sacramentum et res. C'est le sacrement qui fait jaillir la présence réelle. Et puis après, on communie, c'est la présence réelle qui nous fait de nous un sacrement. Ah non, j'en suis à la septième, sixième. Donc cinquième, sacramentum et res. Bon, je recommence. Premier, restantum. Deuxième, signum. Troisième, res et signum. Quatrième, sacramentum, tantum. Sacrement seulement. Cinquième, sacramentum et res. Le sac, c'est la transsubstantiation pour l'Eucharistie. C'est l'absolution pour la confession. Ça y est, sacrement est là. Et donne en même temps, simultanément, la présence réelle, la reste. Jésus naît réellement du sacrement. Je le reçois dans la communion sixièmement, et je deviens le sacrement. Reste et sacrament. Et après, le sacrement disparaît, c'est la digestion. Action de grâce, il n'y a plus de sacrement, il n'y a plus que la res tantum. Il n'y a plus que la réalité seulement, sans le sacrement. C'est le fruit. C'est le septième. La sixième, res et sacramentum. Voilà. Mais oui, c'est plus la même chose. Sacramentum, je fais la transsubstantiation. Donc le sacrement est là et la présence réelle. Je communie. Donc j'ai la présence réelle et je deviens sacrement. C'est pas pareil. Et puis, le sacrement, la présence réelle disparaît. Et puis, il n'y a plus que la présence réelle, mais dans son fruit final épanoui, sans limite, ce que je vous ai dit. Ce que le prêtre vous a dit au sermon aujourd'hui, plus ou moins, ça. Donc vous voyez bien, il y a sept toujours grands épanouissements de la présence réelle de chaque sacrement dans tous les sacrements. Et donc il serait très, 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 très important et très nécessaire et très utile et très fécond et très lumineux et très libérant, vous voyez, les sept aspects, et très glorieux pour nous, pour Dieu et pour l'Église, qu'on puisse voir ce sixième aspect du res et sacramentum pour chacun des sacrements. Parce que dans l'Église de la parousie, c'est là où l'Esprit-Saint veut qu'on mette l'accent. On va mettre l'accent, la pédagogie de l'Église aussi doit mettre l'accent là-dessus. Le centre de gravité de l'enseignement de l'Église doit mettre l'accent là-dessus, sur la sixième colonne. Hein, on va écrire un bouquin extraordinaire là-dessus, la sixième colonne de l'Église. J'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Sixième Église, Philadelphie, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. La sixième colonne. Ah, ça me plaît, moi, ça. Et c'est vrai que si vous voulez, dans l'Église, au fond, triomphante, si je puis dire, l'Église où la liturgie triomphe, est manifestée, etc. C'est normal que ce soit le cinquième aspect qui domine, qui soit sur lequel on mette l'accent. C'est-à-dire la transsubstantiation. La consécration. Le mystère. Le Saint-Sacrifice. Tandis que dans l'Église de la Parousie et des profondeurs de l'âme qui le reçoit, c'est la croix glorieuse. C'est Res Sacramento. Que cette réalité opère quand j'y communie. C'est pour ça que Marthe disait que l'oraison prime sur la messe. Parce que l'oraison, c'est Res et Sacramentum. Et la messe, c'est Sacramentum et Res. Mais on ne peut pas séparer ce que Dieu unit. Il ne faut pas dire, bon, du coup, je ne vais plus à la messe. Ça n'a rien à voir. Les deux sont indissolublement liés. Mais l'accent est mis sur